Salut les amis, bienvenue dans l'Open Mic. Mon nom c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner avec Madame Pinchot qui est là. Salut!
Hello!
Tu passes un beau week-end?
Hey, je surfe encore sur vendredi, au week-end très tranquille, et j'ai terminé ça avec le show de Billie Eilish hier. Fait que je te dirais, ça ferait beau week-end, toi.
Billie Eilish était de passage à Québec. Moi, ça fait 4-5 jours que je n'entends parler. J'ai pas de jeune fille autour de moi qui trippe sur Billie Eilish, ce qui fait en sorte que je l'ai plus suivi au travers des médias. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, je pense, c'est TikTok, l'arrivée de Billie Eilish devant ses fans où les petites filles étaient en pleurs de l'avoir rencontrée. C'est un phénomène, ça.
C'est un phénomène international, puis c'est fou parce qu'on dit les petites filles, puis il y en avait beaucoup, faut dire, mais la crowd était très, très diversifiée hier. Puis moi, Billie Eilish, j'ai suivi beaucoup le début de sa carrière. J'aimais beaucoup son stock quand elle a commencé. Pis j'ai comme décroché à un moment donné. Après Bad Guy, là, elle m'a perdu un peu. Puis tu vois, quand elle a sorti son dernier album, j'ai fait une écoute, puis sans plus. On dirait que j'ai trouvé ça bon, mais tu sais, je me disais, c'est pas ce que j'écouterais nécessairement au day-to-day. Puis hier, j'ai écouté l'album avant de venir au show parce que je devais pas y avoir accès. Puis écoute, dernière minute, j'ai été capable de me faire une petite place parmi la crowd de 19 000 personnes, Yann. C'était...
Est-ce que c'est la plus grosse foule du Centre Vidéotron qu'on ait jamais eue?
C'était capoté, c'était plein à ras-bord. Puis honnêtement, ce show-là a été exceptionnel.
Metallica, ça n'a pas foulé?
J'étais pas là quand ils sont venus. Là. Ça, c'est quand ils ont fermé le Colisée puis qu'ils ont rouvert. Là.
Ouais.
Mais ils disaient parmi tous les articles que j'ai lu hier que c'était la plus grosse crowd.
Ouais, mais tu sais, ben honnêtement, c'est tout comme nous, là, les journalistes ne sont pas parfaits.
Mais non.
Au match du Rouge et Or, ils ont dit que c'était la première fois qu'un avion survolait un stade au Québec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils l'ont échappé.
Mais honnêtement, il n'y avait pas de trou. Là. C'était vraiment en plein, c'était capoté.
C'était jam-pack.
Puis c'est la première fois, moi, que je voyais un show à scène centrale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mauvaise place. Puis là, j'avais une pensée, Anne, pour tous ceux qui couchent dehors depuis jeudi soir passé. Là, ça ne servait à rien. Là. Il n'y avait pas de mauvaise place quand tu étais sur le parterre, ni quand tu étais... Je dis ça. Peut-être que si tu étais complètement en haut dans le pit carrément, tu n'avais pas la même vue, mais je veux dire, Billie Eilish possède sa scène. Puis le stage, c'est un écran géant. Fait que je veux dire, les effets visuels sont complètement pétés. La fille a un talent qui est comme incontestable. Que t'aimes ou pas sa musique, c'est tellement impressionnant. Ça vibre de partout en dedans de toi. T'as l'impression que le show est fait seulement pour toi. T'es tellement absorbé par tout ce qu'il y a visuellement.
Ouais. La clientèle, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est en majorité des jeunes filles? Parce que je sais que Max a été faire un tour. Là,
en majorité des femmes, je vais dire. Là. Par exemple, il y avait vraiment une crowd très, très diversifiée, comme je dis. Là.
Y avait-tu des pères avec leurs filles?
Oui, t'avais des parents, t'avais des gars avec leurs blondes, des gars qui aiment Billie Eilish aussi, il faut dire. Là, je veux dire, son œuvre est vraiment pas que féminine. Je pense que ce qui fait que ça touche un peu plus la jeune génération, c'est qu'elle est très activiste dans sa façon de faire. Tu sais, Billie Eilish est végane, puis je veux dire, elle a son côté environnemental très arrêté.
Elle se promène ça en voile pour venir au Québec ou...
Non.
Non? Elle vient-tu à pied, en vélo?
Non, ben là, elle était avec son gros truc noir. Là, qui
un gros truck noir?
Là. Non, mais tu sais, c'est pas un truck, mais comment t'appelles ça? J'oublie tout le temps la marque de ce char-là.
Un Suburban?
C'est ça, là. Tous les artistes se promènent là-dedans. Okay. Là.
Mais elle est très activiste, oui. Environnementalisme dans l'art.
Oui, non, mais on se comprend, mais regarde, moi, je m'en vais pas là.
Moi, j'y vais.
T'as le droit d'y aller. Mais c'est pas ce que je retiens.
Pour s'auto-promouvoir, ils sont bien bons pour vous faire la morale, mais je peux vous dire que si vous calculez leur. Ce qui peut être endommageable pour l'environnement.
Mais surtout elle,
pour leur déplacement, elle se promène à travers le monde en jet.
Ben oui, puis c'est pas juste elle, là, c'est tous les trucs de tournée. Il y en a en tabarouette pour son stock parce qu'elle m'a dit qu'il y avait du stock à monter. Puis c'était drôle parce que quand elle a terminé, là, les travailleurs, ça n'a pas pris de temps avant qu'ils rentrent. Là. Ils voyaient tout avec leur gilet orange flash, puis c'était comme « Ah ouais, faut qu'on démonte ça, ça va nous prendre la nuit. »
Mais ça, c'est la gang du Centre Vidéotron. Là.
Ah, ben oui.
Ils travaillent vraiment
vite. Oui,
c'est vraiment... je sais pas s'il y en a qui nous écoutent au 418-971-1021, mais comment ça a pris de temps si vous étiez là, si vous travaillez au Centre Vidéotron pour démancher tout ça, puis même le ramancher, ça prend combien de temps à peu près?
Je suis curieuse, pas vrai.
Ouais, vraiment.
Mais tu sais, pour une première de tournée, il n'y a pas eu d'erreur. C'est une fille qui est proche du public. Tu sais, à un moment donné, elle avait des élastiques de pognée dans les cheveux, puis elle voulait lousser ses cheveux. puis elle est descendue dans la foule pour que quelqu'un l'aide. Là. Fait qu'il était tout après elle à essayer de démancher la tête. Là. C'était comme... elle est charmante. Tu peux pas apprécier sa présence scénique ouais. si t'aimes le moindrement la musique.
Puis au niveau visuel, on m'a dit que c'était un très beau spectacle.
Ah non, mais Yann, j'ai jamais vu ça.
Ouais.
Ils utilisent autant la foule avec les effets de lumière, là, les formes dans le public, que les lasers, il y en a... partout. Je te dis, t'es tellement submergé par le visuel que t'as l'impression d'être tout seul. Il y a pas beaucoup de moments où j'ai regardé autour de moi puis j'ai pris conscience du nombre de personnes qu'on était. J'étais tellement absorbée dans le moment présent parce que c'est ça, il y en a trop, il y en a partout. Puis je dis trop, pas de façon négative en passant, mais je veux dire, on utilise la scène qui est un écran géant, les écrans qui sont en haut, les colonnes de son qui descendent sont aussi des écrans de projection. C'est débile, le visuel. Je vous ai mis quelques stories sur l'Instagram de Boulevard, là. Puis, tu sais, je veux dire, elle se promène. Oui, il y a du playback. Moi, ça m'énerve bien raide parce qu'elle a la voix pour le faire en direct. J'ai un peu le même parallèle que Post Malone, mettons, au fait que cet été, il aurait été capable de faire ça en direct de A à Z.
J'ai l'impression que c'est une sécurité pour eux.
Bien, c'est pas une sécurité, oui, mais elle bouge tellement sur le stage ouais. aussi qu'à un moment donné, ça lui donne un break, là, tu sais. Mais tu le remarquais quand elle était en direct, quand elle jasait, quand elle chantait aussi. Elle a une voix exceptionnelle, là.
Ouais, moi, tu comprends que c'est pas dans mon son, là, mais je suis super heureux que vous ayez passé une super de belle soirée, puis de voir que des jeunes et moins jeunes ont trippé hier, c'est très cool. Belle fin de semaine pour la majorité des gens. La température était super adéquate. J'ai oublié mon toit de Wrangler cette nuit, ce qui fait en sorte que je suis rentré dans mon char un matin, le cul bien trempé. La rosée était assez solide. Là. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était hyper humide. C'était le classement en Beauce pour ce qui est des jeunes joueurs de hockey. Puis il y a eu des gens qui étaient très heureux, d'autres qui étaient peut-être moins heureux de leur classement. Les amis, hein, tant à Québec qu'en Beauce, là, vos enfants ne feront probablement pas la Ligue nationale de hockey.
Non, c'est pour
tout ce que vous avez à faire, c'est de les consoler s'ils sont déçus, puis de continuer à les encourager. J'osais avec un gars qui... je sais que c'est un auditeur aussi, fait que je peux me permettre d'en parler. J'osais avec un gars qui est responsable des classements. Puis lui, il évolue dans la ville où il classe les jeunes. Ce qui fait en sorte que tout le monde le connaît. Mm. Il est sur les réseaux sociaux. Fait que là, ça fait des gens qui sont mécontents de... Ah, ben on va l'appeler Eric. Ah, Eric, il en a choisi un plutôt que l'autre, mais moi, je trouve que mon enfant est meilleur, puis là, je vais le faire savoir à Eric. Puis là, des petites pointes, tout ça, puis il me racontait à quel point... Tu sais, il me dit, ça dure à peu près une ou deux semaines, mais c'est lourd en maudit là, de recevoir des courriels de parents qui sont insatisfaits du classement de leurs enfants. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de vivre leur rêve au travers la vie de leurs enfants. Tu sais, ouais. Des gars qui auraient voulu faire la Ligue nationale de hockey qui disent « Regarde, moi, je ne l'ai pas fait, mais mon gars va le faire. » Puis là, ton gars n'a peut-être pas toutes les aptitudes nécessaires. Puis au lieu de faire du triple lettre, il fait du B. Puis tu n'es pas content de ça.
Les gérants d'estrade...
Oui.
C'est pas bon pour l'évolution de ton enfant, j'ai l'impression. Non plus,
bien attitude-là. Honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui sont privilégiés parce que c'est les amis de un, c'est les amis de l'autre? Savez-vous quoi? La vie est injuste. Ça existe. C'est comme ça dans les entreprises. C'est comme ça au parc pour enfants. C'est comme ça dans les écoles. Il peut toujours y avoir des injustices. Puis je sais que ça peut être dur, mais votre fils ou votre fille ne fera jamais la Ligue nationale de hockey pour la plupart d'entre vous. T'sais, je vous le souhaite, là. Qui a un talent exceptionnel, mais c'est 1 sur 25 000, mmh. 1 sur 30 000. Donc, on se donne beaucoup pour nos enfants, mais je pense qu'on aurait intérêt à se donner peut-être plus sur l'aspect psychologique avec nos enfants.
Oui, parce qu'il y a des leçons à travers ça aussi. Là.
Tu voulais faire le A, tu fais le B, il te reste un an pour te reprendre pour faire le A l'an prochain. C'est quoi le plan qu'on fait, toi puis moi, pour réussir à te faire faire le A? Tu veux-tu des écoles de hockey? Tu veux-tu que papa aille s'entraîner avec toi? On va-tu faire des marches? On va-tu à patinoire? Tu sais, c'est bien facile de juger les gens qui sont là, qui sont bénévoles en passant, qui sont chargés du classement des enfants, mais vous autres, vous faites quoi de votre bord? Puis jasait avec, puis ça semblait être très lourd. T'sais. Même si lui, il le fait parce qu'il aime le hockey, ça semblait être très lourd pour lui à porter ça.
Non, il n'y a pas la belle position, mettons. Là.
Ben non, mais ça prend quelqu'un qui le fait. Oui. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, tu as une entreprise, OK? Faut que tu t'as deux enfants, deux gars. Il y en a un qui est plus vieux, il y en a un qui est plus jeune. T'sais. Ils ont 10 ans de différence. Puis là, il faut que tu cèdes ton entreprise. Le plus jeune a plus de skills que le plus vieux pour la gestion de ton entreprise. Faut que tu choisisses. Mm. Mais tu sais que ton plus vieux, qui n'aura pas été choisi comme PDG, mettons, Il va être extrêmement déçu, mais c'est ton fils.
Non, c'est rough, là.
Faut que tu vives avec, là.
Ben oui.
T'sais, t'as des choix à faire.
Non, non, c'est rough.
Fait que je salue tous les bénévoles qui font ce type de choix-là pour nos enfants. Puis je salue les parents qui sont des parents qui sont bienveillants à l'égard de leurs enfants puis qui savent que, à un moment donné, ces jeunes enfants-là vont devenir de jeunes adultes, ils vont devenir des adultes. Puis, tu sais, la compétition, ça existe aussi en entreprise. Puis c'est pas parce que t'es pas choisi là que tu seras pas choisi dans 6 mois, dans un an. Tu sais, de voir que... Puis moi, j'écoute là, les autres enfants. Puis, ah, mais toi, t'aurais dû faire le... T'sais, j'entends les enfants dire, pourquoi lui, il est moins bon que nous autres? Pourquoi il a fait le A? Juste d'être bienveillant à l'égard de nos enfants.
C'est une belle représentation, par exemple, j'ai l'impression, de la future société, là. C'est des questionnements que tu as dans n'importe quel domaine, en fait, ou dans n'importe quel...
C'est parce qu'on vient au monde en ayant des émissions pour enfants qui nous disent que on est tous égaux, alors que c'est pas vrai.
Non, c'est
on n'est
pas
tous égaux au point de vue de la société. On vient au monde en se faisant dire, ouais, mais la justice, des fois, c'est injuste, la vie. Mm. La justice, c'est pas toujours là.
Il y a des défaites, il y a des victoires.
Ça se peut que tu travailles, ce soit toi qui travailles le plus fort dans l'entreprise, puis que tu n'auras jamais les promotions, puis il y en a un autre qui vient de rentrer, qui te chippe la place que tu voulais. Mm. Tu sais quoi? Il y a toujours l'autre côté de la rue où il y a une entreprise qui est semblable qui peut peut-être faire le même choix qui va te prendre toi plutôt que l'autre.
Oui, t'as raison.
Mais avec nos enfants, je trouve qu'on est particulier, principalement de notre génération, nous autres. Tu sais, on est tous responsables de nos enfants pour la plupart. Tu sais, je regardais Drainville qui dit « faut ramener le roi de la montagne à l'école ». Tu sais, pour une des rares fois, je suis d'accord avec le ministre Drainville, c'est vrai que la compétition, il faut la ramener à l'école parce qu'il faut préparer nos enfants à être de jeunes adultes. Puis dans le monde adulte, la compétition existe. Puis de voir qu'il y en a qui s'écroulent dès qu'il y a de la compétition, je trouve ça triste pour eux.
C'est ça, c'est comment tu es capable de gérer cette compétition-là qui fait un peu le futur humain que tu es aussi. Là. Si tu n'es pas exposé à ça jeune, ça rentre dedans. Là.
Les frustrations à l'interne. Oui. Quand tu as toujours pensé toi, que ah, ben, la vie est tout le temps juste.
Oui.
Je suis gentil, donc je ne pognerai jamais le cancer.
Tes parents t'ont toujours dit que t'étais donc ben parfait, puis que tu l'avais, puis... Ouais.
Mais tu sais, je suis gentil, donc je vais avoir une belle vie, donc j'aurai jamais le cancer. Mm. Pouf, le cancer à 18 ans, voyons, j'ai tout le temps été poli.
J'ai jamais rien fait pour mériter ça.
J'ai jamais rien fait pour mériter ça.
Pas de même, ça marche.
Pourquoi moi? Tu sais, le pourquoi moi, là, j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un qui était très près de moi. Il a pogné quelque chose que, sérieux, j'ai pogné 2 minutes moi aussi, là, on pensait jamais que ça pouvait y arriver. Puis je peux pas l'identifier parce que c'est une maladie rare, puis les gens vont savoir de qui je parle. Puis il m'a dit « Pourquoi moi? » Je dis « Tu sais, je comprends ton malaise, là. Puis je suis très empathique envers ton malaise, mais quand tu dis « Pourquoi moi? » C'est comme si tu disais « Ça aurait dû arriver à quelqu'un d'autre. »
Ça m'est loin, quelqu'un d'autre le mériterait.
C'est ça.
Ah, mais il y a des affaires, des fois, Yann, que je t'avoue, que je me dis, il y a une couple de prisonniers là, qui pourraient ramasser à marde que d'autres ont. Là,
mais la vie est injuste, Audrey!
Il y a des gens, pour moi, qui méritent plus le cancer que d'autres. Là,
la vie est injuste. Le « Pourquoi moi? » Je comprends le premier réflexe de te poser la question. Tu as mené une bonne vie. Le « Pourquoi moi? » Oui, mais pourquoi pas toi? Mm-hmm. Pourquoi l'autre, ce sera pas comme un autre défi qu'il va avoir? T'sais?
Rien n'arrive pour rien.
Fait que, bref, bien des enfants déçus de ne pas faire les équipes qu'ils voulaient faire en fin de semaine. D'autres, comme les deux miens, moi, sont super contents parce qu'ils ont des amis. Moi, mes gars sont comme leur mère, là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des amis dans l'équipe.
Ah.
Fait que là, ils ont retrouvé des camarades de classe dans leur équipe. Fait que
ça fait leur bonheur.
Écoute, sur un nuage.
Là, Yann, tout ce que je vois depuis 15 minutes... C'est la marque que tu as sur le nez.
Oui.
Qui fait référence pour moi à la soirée de vendredi.
Yes.
T'es-tu encore bien marqué sur le chest?
Je vous en parlerai pas pendant 2 heures. Je veux juste vous dire un gros merci à tous ceux qui se sont présentés. Je pense que vous avez eu une soirée que vous allez vous souvenir longtemps.
C'était exceptionnel.
Moi, je vais me souvenir de cette soirée-là comme vous n'avez pas idée. J'ai adoré embarquer dans l'expérience de la NSPW. Quand on a eu cette idée-là, on pensait ramasser comme 2-3 000 piastres. Mm. Je me suis dit, garde, on va ramasser 2-3 000 piastres, mais au moins, ça va servir à bon escient. Ça va être pour les gens de la bouchée généreuse. Puis toute la gang de la station, tous les lutteurs de la NSPW ont dit... On embarque à fond là-dedans, puis on a réussi à ramasser 17 500 $. En fait, c'est pas le bon chiffre.
Ça a-tu augmenté depuis le week-end?
Ça a augmenté depuis ce week-end. Il y a d'autres dons qui restent à recevoir pour ce qui est de Marie-Pierre. Puis d'après moi, on devrait être capable d'atteindre au moins le 18 000. Là. Au moins 18 000. Mais je suis très content de toute l'organisation, de tous les auditeurs qui se sont présentés là-bas, mis à part la température qui était épouvantable.
Ah, mais là, c'est normal.
On avait fait par exprès, on avait monté le chauffage parce qu'on avait mis la bière à 3$.
Et qu'il fait chaud. Les coups, hein, faut que ça se...
Mais on s'est dit, on va monter le chauffage, on va mettre la bière à 3$, ça fait que ça va compenser.
Oh, ouais.
Quel beau gala de lutte la NSPW nous a donné. Quel beau monde qui était présent. Moi, j'ai essayé de serrer le plus possible la main à tout le monde à la fin de la soirée. Des photos aussi. Il y en a qui m'ont envoyé des photos. Je pensais pas que j'avais de l'air de ça. Fait que je m'excuse. Là.
Mais non, mais là, t'étais brûlé.
Épuisé.
Ben là.
J'avais plus de gaz pantoute. Mais ça va. Toute ma vie, ça va me suivre, ça.
Mais
on l'a fait.
J'en doute pas. Exactement. C'est ce sentiment-là de satisfaction. Puis on s'étendra pas parce que je sais que vous allez certainement jaser avec Pascal aussi ce midi. Là. Puis je sais que tu prends mal ces compliments-là, Yann, mais. Moi, je tiens à le dire, l'idée partait de toi. Puis il y a beaucoup de ces idées-là qui viennent de ta tête, de comment on peut changer les choses. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui mène ces projets-là à terme. Oui, ça a pris les auditeurs, les gens qui se pointaient. Oui, ça a pris des gens de la station pour mettre ça en fonction. Ça a pris tout le monde pour mettre le projet sur pied, mais l'idée te revient. Puis ces mardis-là où tu t'es entraîné pendant des semaines et des semaines, les efforts que tu as mis. Tu sais, je te l'ai écrit vendredi, mais moi, ça, c'est une partie qui m'a rendu bien émotive vendredi. De me dire comme, hey, le petit maudit a été game de comme subir aussi tout ce qui se passe sur le ring, là, parce que c'est un show. Faut qu'il y ait un show à donner, là. Si t'avais été mauvais ou qu'il n'y avait pas eu que le but, tout le monde aurait été déçu, là. Mm-hmm. Tu sais, l'argent, ça serait ramassé, mais ça n'aurait pas été autant une belle soirée.
Mais c'est mal me connaître, puis je pense que c'est mal connaître Steve Boutette aussi, qui sait.
Vous êtes donné.
Qui est Steve Sullivan, qui s'est investi là-dedans.
Du
début jusqu'à la fin. Moi, je connaissais Steve de nom. On se connaissait un peu sur les réseaux sociaux. On se jasait, on s'envoyait des niaiseries. Mais de le côtoyer à chaque semaine, parce que ça, c'est la portion que les auditeurs ne savaient pas, c'est que j'allais le voir chaque semaine pour apprendre les rudiments de la lutte. Normalement, ça prend un an et demi avant d'être capable de faire un combat puis que ce soit comme regardable. Puis Steve a trouvé une technique qui allait faire en sorte que autant lui que moi...
Ça allait être réaliste.
Ça allait être réaliste, puis on allait être en sécurité. Moi, c'était plus ça qui m'inquiétait, parce que je représente la station. Si je deviens quadriplégique, là...
C'est sûr que ça n'a pas la même portée.
Mais
hein?
Je vous niaisais avec la CNSST, mais je suis sur la CNSST jusqu'à la fin de mes jours. Là. Tu comprends? Donc, Steve a été hyper bienveillant. Il m'a fait faire des trucs. Tu sais, les acrobaties que vous voyez, pour vous autres, ça a l'air que c'est moi qui les fais. Mais le ciseau, là, tu sais, quand il me flippe dans les airs, là, moi, je fais rien, mis à part me faire prendre par une brute de 240 livres.
Mais c'était beau de voir aussi l'espèce de chimie que vous aviez, parce que nous, on le savait, mais tu sais, on voyait que vous vous parliez là, à travers. Il y avait une communication. Bon, je ne sais pas si tu entendais grand-chose.
J'entendais rien.
Mais on voyait que Steve essayait. Fait que c'était super mignon. Pascal qui a super bien joué son rôle de brute. Reg qui a embarqué aussi. C'était vraiment magique comme moment. Puis je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux parce qu'on vous a mis des bouts de la soirée. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce que ça a été. Puis pour avoir jasé avec beaucoup d'auditeurs vendredi, je tiens à vous remercier aussi de vous être déplacés, parce que mine de rien, ce petit 20$-là que vous avez donné ici et là, ça a fait la différence.
Avec les lutteurs, avec les bénévoles de la NSPW, d'après moi, on est à peu près 600 en place. Le band rock était juste hallucinant.
Les Muffs sont bons.
L'animation de la NSPW était bien faite aussi. Le combat est disponible en passant. Là. Si vous voulez aller voir tout le gala de lutte de la NSPW qu'on a fait vendredi, vous allez sur YouTube. Vous tapez NSPW, puis c'est le dernier des combats. Je pense que c'est le dernier des vidéos.
Oh ouais,
je pense que c'est 2h30 à peu près, où vous pouvez voir tout l'ensemble de la soirée.
Et puis chapeau aussi aux autres lutteurs. T'sais, on parle beaucoup du combat final, parce que c'était comme le clou un peu, puis la joke à Boulevard, mais les lutteurs avant ont été franchement impressionnants. Le premier combat, là, les filles contre les boys.
Toi, c'était la première fois que tu voyais ça. Hein?
Ben, moi, j'avais déjà vu au centre Vidéotron, mais j'étais comme plus loin. On dirait que j'ai regardé les réactions. J'étais pas concentrée vraiment sur tout ce qui était technique, mais de voir le jeu de théâtre, parce que c'est un mélange de tellement d'art,
c'est
la
du
lutte.
Théâtre, c'est de l'acrobatie, c'est du combat. Pour ce qui est des coups que je recevais, là, t'sais, mis à part les chops... Là,
hey, ça, là, j'avais mal pour toi!
Je veux dire, ça s'entendait... Mon chum, il était au gala de boxe en bas, là. Puis il me disait qu'ils entendaient, là.
J'en doute même pas, ça vibrait.
Mis à part les chops, c'est tous des coups qui sont contrôlés.
Oui.
Tu sais, puis tout est calculé. Fait que oui, comme tu le dis, c'est un genre de valse.
Oui.
Avec des acrobaties.
Full
avec
chimie,
des
coups, là.
Avec du théâtre au travers de tout ça. Puis, tu sais, ça aurait pas pu être possible sans Steve Boutette, qui a été bienveillant du début jusqu'à la fin. Il était hyper patient. Moi, j'étais arrivé là, je ne connaissais absolument rien de la lutte. Puis, c'est ça. J'ai été capable de faire un combat. Fait que j'annonce que c'est ma retraite.
Oui, tu te retiens.
Il n'y en aura plus jamais.
J'ai été impressionné.
Mais quelle
aussi.
Belle expérience. Ah. C'est des lutteurs professionnels. Hein.
Oui.
C'est de la lutte professionnelle.
La foule fait partie du spectacle aussi, il faut le dire.
Écoute,
hein?
Pascal m'a dit que les auditeurs... Bon, ils savaient que Pascal a joué le rôle de méchant.
Oui.
Fait qu'il en profitait pour l'insulter.
Mais oui. Mais c'est fou, là. Si vous avez jamais vu de la lutte, ça vaut l'expérience d'une vie parce que les gens font partie du show. Les méchants sont connus, les gentils sont connus. Faut que tu hues, faut que tu insultes, faut que tu cries. C'est vraiment le fun. On dirait que le monde se défoulait.
Le monde se défoulait. Mes gars m'ont demandé, en fait, Josh que j'avais amené, mon plus vieux, je l'avais amené avec moi pour qu'il voit comme tout le déroulement de la préparation, de la soirée, ouais. Tout ça. Puis quand il a vu Sullivan, il a dit « J'aimerais ça avoir un T-shirt de Sullivan. »
Ah, pour encourager l'adversaire.
Fait
oui.
Que je voulais acheter un T-shirt de Sullivan. Finalement, Sullivan a dit « Non, c'est beau, c'est moi qui offre. » Il faisait plaisir de faire ça à mon fils. Fait que, puis mes gars, ils ont regardé le combat. Au début, ils étaient comme pas sûrs. Puis à un moment donné, pendant le combat, je les ai regardés. Les deux, ils avaient les yeux ben ronds en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec notre père? Il est en train de se faire assommer. » Puis après ça, ben, il était content, bien entendu, du déroulement du combat parce que moi et Steve, on s'est rendu jusqu'à la fin. Fait que les grands gagnants, c'est les bénéficiaires de la bouchée généreuse. C'est Marie-Pierre Gravel, son père qui était là présent, qui était très ému de voir Marie-Pierre qui doit peser à peu près 105 livres mouillées, embarquer dans le ring puis se faire applaudir par 700 personnes. C'était de toute beauté puis c'était des applaudissements qui étaient mérités à son égard. Fait que merci beaucoup à toute l'équipe. Mon most valuable player, c'est Kim.
Oui.
Qui a mené ce mandat-là à bout de bras. Moi et Steve, on est à peu près pareil comme gars, là, ce qui fait en sorte qu'on a besoin de quelqu'un pour nous rappeler constamment certaines choses. Puis Kim était la candidate idéale pour le faire. Fait que c'est pas dit qu'on ne fera pas d'autres patentes du genre, là. Inquiétez-vous pas. Je pense déjà à d'autres choses pour ce qui est des prochains mois, les prochaines années. Mais ce sera toujours pour redonner à la communauté une station de radio locale qui fait juste du divertissement, qui parle juste de la musique, qui font juste du commentaire. Bon, ça peut être intéressant pour certains, mais ce qui est concret pour une station de radio locale, et c'est ce qui fait en sorte que les gens nous apprécient, c'est les choses qu'on peut changer petit peu par petit peu. Tu sais. Puis de voir qu'on va nourrir des gens pendant des semaines et des semaines, des enfants, c'est 2000 enfants par semaine qui sont nourris à la bouchée généreuse. Moi, ça me fait chaud au cœur. Puis ça, bien, c'est grâce à tous les auditeurs puis les commanditaires qui se sont présentés.
Oui, bien, ça vaut peut-être la peine de remercier une dernière fois tes passions informatiques, T-shirt, Image Express à Côte de la Pente Douce, Pèlerin Inspection, Simon Laberge, Expert Finition 2020 qui ont donné des dons à part, entre autres pour ton costume dans le processus et tout. Là. Vous avez été une méchante belle gang. Puis je tiens à dire, tu sais, oui, le gala est terminé, c'est derrière. Il y a des gens qui n'ont juste pas pu se présenter. Vous pouvez donner directement en passant sur le site de la Bouchée Généreuse. Là. C'est super simple faire un don. Vous avez un reçu en plus pour les impôts. Ça peut être votre BA de l'année. Là. C'est la cause que Yann avait choisi pour cet événement-là. Puis je suis d'accord avec toi de dire qu'il faut trouver d'autres projets comme ça avec d'autres causes à supporter.
Ça sert à ça.
Oui, puis c'est là que tu vois que tu peux faire une petite différence ici et là. T'sais.
Puis la famille Leclerc, c'est ça? Là.
Oui.
C'est ça, la famille Leclerc, c'est des gens qui embarquent dans nos patentes puis qui nous disent bon, « OK, on n'est pas trop sûr de Marceau, qu'est-ce qu'il va faire, mais allez-y, puis au pire, ce sera les assurances, la station. » Pirate Barbecue, un de nos commanditaires qui a embarqué, pas pire aussi, avec 200$, c'est Steve Boutet. On va parler à Steve, qui est le président de la NSPW, mercredi. Je sais qu'il se fait opérer dans les prochaines heures, fait que mes pensées sont avec lui. Si vous étiez là, vous avez vu que Steve avait comme un genre d'attelle au coude, là.
Ouais.
C'est qu'il manque un genre de...
C'est comme un an qu'il était mangé. De même, là.
Son triceps est perdu.
Ouais.
Il n'existe plus.
Ça me fascine qu'il se bat pareil.
Il se bat, mais en plus, moi, je l'ai mordu, son triceps.
Oh, c'est vrai!
Oui, ben oui. l'attaquer sur ses points faibles.
Ça a été écœurant.
Les vulgaires machins, obsolètes sur les ondes du boulevard. Vous avez des choses à nous dire, les amis. 418-971-1021. Vers les alentours de 10h25, on va avoir le plaisir de jaser avec Antonine Iacarini, qui est analyste politique et spécialiste en affaires publiques. Et Judith Rodrigue aussi sera là, qui est la responsable de l'espoir sur le comité organisateur de la course à la vie CIBC contre le cancer. Donc, elle sera avec nous vers les alentours de 11h.
Quand on dit qu'on va jaser avec Antonine dans les prochains instants, la question est très, très simple. Pourquoi on ne s'intéresse plus à la politique, surtout chez les jeunes? Si vous avez des hypothèses, je suis curieuse, au 88-971-1021, il y a beaucoup de questions à poser autour de ça. C'est-tu la faute des politiciens? C'est-tu notre faute? On va essayer de jaser de tout ça dans les prochaines minutes.
Peut-être un peu des deux. Ouais, vulgaire machin obsolète sur boulevard. 10h33 minutes. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous voulez nous en faire part, c'est le 418-971-1021, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Pendant les entrevues aussi, vous avez des choses à nous dire par texto, ça fonctionne bien. Le pont de Québec qui a rouvert ce matin, qui était fermé en fin de semaine, ça
il
a
occasionné,
c'est ce matin,
ah oui,
5
finalement.
Heures de mémoire.
Ah, ils nous ont menti. Parce que vendredi passé, ils nous ont fait la surprise, comme ça, ça réouvrirait dimanche matin. Tout le monde était bien heureux, on se trouvait une journée, tu sais. Fait que ouais. Finalement, ce matin.
Ben, moi, c'était ça qui était annoncé vendredi, là.
Okay.
Mais normalement, c'était ce matin, 5 heures. Cela dit, il y a eu quelques accrochages sur le pont Pierre-Laporte hier. Ça a occasionné plusieurs minutes d'attente. Mm-hmm. Là, certains ont attendu comme 2 heures pour traverser sur la rive nord ou sur la rive sud. On vous salue. Ce sera ça pour une couple de fin de semaine encore, le temps que l'hiver s'amène. Donc, on lâche pas. On part plutôt les amis. Sur la route?
Il y a quelques ralentissements si vous êtes sur la 20 direction ouest en ce moment à la hauteur de Taniata. Guillaume Couture aussi à la hauteur de la route du président Kennedy. C'est pas mal tout ce qui est ralenti pour le moment. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021 texto.
Ouvert hier matin, j'ai passé dessus à 16 heures. Donc, ils nous ont donné une journée de gratis.
Oui, c'est ça qui s'est passé. C'est fin, hein?
Oui. Hey, on parle de gros sujets de politique. Pas tout le temps dans l'open mic, bien honnêtement. Je pense que depuis le début de cette émission-là, c'est la première fois qu'on parle de politique. Mais on s'est dit, on va aller chercher quelqu'un qui est foncièrement humain.
Oui.
Hein,
mais
pour parler de politique.
Je pense que c'est l'angle qu'on va utiliser qui fait que ça se rattache bien à l'open mic parce que, puis c'est très personnel ce que je veux dire, là, je sais qu'Yann, toi, la politique, tu suis ça solidement puis t'aimes ça, puis t'es très allumé par le positif ou le négatif de la politique. Puis moi, je vais être transparente, j'ai comme une impression que la politique m'a beaucoup perdue dans les dernières années. Et pourtant, tu sais, c'est comme ma job, on dirait, de la suivre à travers ce que je fais au quotidien. Mais j'ai comme l'impression que ce qu'on voit dans les médias, c'est le plus banal de la politique, le moins pertinent de la politique. Puis j'ai l'impression que mon intérêt a comme descendu dans les dernières années, au point où, quand j'écoute Denis, mettons, l'après-midi, dire que lui, il vote plus, puis il faut son érection politique, puis ci, puis ça, des fois, je me colle un peu à ce discours-là parce que j'ai l'impression que je saurais pas pour qui voter. Je suis comme un peu perdu à travers la game politique. Puis il y a une question qui me trotte en tête depuis une couple de semaines, puis c'est par rapport au futur aussi de la politique. T'sais, est-ce que les jeunes en ce moment s'intéressent encore à ça? Puis je dis les jeunes, la population en général, c'est-tu de notre faute? C'est-tu de leur faute au gouvernement? Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Puis n'hésitez pas à commenter ou si vous avez des questions, 971-1021, parce qu'on a une pro avec nous ce matin.
Oui, madame, oui, monsieur. Antonine Iacarini qui est là, analyste politique et spécialiste en affaires publiques. Salut, Antonine.
Salut, merci de me recevoir pour ce sujet-là qui vraiment me passionne.
Ouais, c'est-tu quelque chose auquel tu réfléchis souvent? Comment faire pour amener les jeunes à s'intéresser à la politique?
Les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce que Audrey le disait, c'est pas seulement les jeunes. On sent un désintérêt qui est beaucoup plus large, mais c'est particulièrement criant chez les jeunes.
Ouais.
Puis moi, ça fait beaucoup partie de mon engagement. C'est-à-dire que je fais de l'analyse politique dans les médias maintenant que je ne suis plus dans la politique active comme telle pour deux raisons. Une qui est égoïste, parce que j'aime ça puis que ça me fait plaisir. Mais une qui est un petit peu plus... purpose, là, que je mets entre guillemets, c'est que je pense qu'on a une meilleure société quand les gens s'impliquent dans leur communauté. S'impliquer dans la communauté, ça peut être de plein de manières, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui laissent le terrain politique complètement libre, puis ils se font gérer, puis ils prennent pas leur place. Puis j'aime réfléchir aux raisons qui expliquent cette situation-là, parce que je pense qu'on a une société meilleure quand tout le monde s'implique un petit peu davantage. Fait que ça, c'est comme un peu ma raison de vulgariser puis d'essayer de baisser le cynisme un peu à travers, des fois, amener une autre perspective.
Bon. Mais c'est vrai que les gens sont cyniques. J'ai l'impression, en fait, que les gens ont juste laissé tomber. Du genre, oh, on est tellement déçus que rendu là, je vais vivre ma petite vie de façon très individualiste. Je vais m'occuper de mes petites affaires. Je vais aller faire du bénévolat pour moi faire une différence dans la société. Mais j'ai l'impression qu'on tord passe de côté un peu le gouvernement puis la politique parce qu'on a l'impression que peu importe ce qu'on crie, qu'on dit, qu'on veut, ça ne changera rien.
Tu as raison, puis je pense que c'en est une des raisons pourquoi les gens ne s'impliquent pas, c'est que ça ne donne pas des résultats automatiques. C'est long, hein? C'est la politique, ça représente beaucoup de gens. Un gouvernement, ça représente beaucoup de gens puis beaucoup d'intérêts qui sont différents. Et tu as peut-être l'impression d'avoir un impact plus important quand tu t'impliques, par exemple, auprès d'une OBNL, une bonne cause, un groupe de pression même. Ce que tu fais, ça a un impact que tu vois direct. Plus rapidement, qui est direct. La deuxième explication, c'est que je pense qu'elle est culturelle, c'est qu'au Québec, on n'aime pas beaucoup la chicane. Mettons que vous voyagez un peu ailleurs dans le monde, vous allez voir que des débats autour de la table au souper, il y en a plus régulièrement.
Juste regarder les débats qu'il y a en France.
Ben oui.
Dans des talk shows. Et tu sais, moi, j'étais avec quelqu'un à un moment donné, puis c'est en fait sur la mort de mes enfants, puis on écoutait un débat en France, puis elle disait, je suis pas capable. Ils n'arrêtent pas de s'ostiner, là, ils s'entendront jamais, je suis pas capable, on peut te changer de poste.
On est mal avec ça.
Je
hein?
sais pas pourquoi.
Ben, je pense qu'il y a probablement des raisons culturelles, historiques ouais. à ça. Moi, j'y vois aussi un traumatisme des référendums. Les référendums de 1980 et 1995, que la jeune génération n'a pas connu d'ailleurs, mais que les gens de mon âge, on était, moi j'avais 10 ans là, lors du référendum de 1995, ça a créé beaucoup de chicanes à l'intérieur des familles, hein, des déchirements. Il y a des gens qui ne sont plus amis après le référendum parce qu'il n'y avait pas la même position. Puis on voit que les questions politiques et les questions religieuses au Québec, ça crée des fois des tensions, puis on est très, très mal à l'aise avec ça, alors que moi, par exemple, la moitié de ma famille est d'origine européenne, on est italien. Moi, mon grand-père, autour de la table, il nous demandait notre avis sur n'importe quoi. Le conflit israélo-palestinien, t'en penses quoi? Antonine, 9 ans, go. Puis il n'y avait pas de mauvaise réponse.
Jeunes, là.
Ben, c'est ça, mais il n'y avait pas de mauvaise réponse. Puis on n'était pas nécessairement d'accord à la fin du souper, puis on passait à un autre appel. C'était pas grave.
Ouais. Mais ça se peut-tu que ce soit une question de pertinence? Parce que, tu sais, personnellement, moi, les débats m'intéressent. Moi, j'aime ça quand le monde s'ostine. J'aime ça quand il y a des réponses qui sortent. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est du monde qui se crie dessus puis qu'il n'y a rien de pertinent comme propos ouais. qui sort, que ça devient personnel puis ça ne sert plus la communauté.
Penses-tu que la couverture des médias y est pour quelque chose? Parce que oui. ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est ce qui est le plus croustillant. Ouais. C'est la contradiction, ouais. c'est l'erreur, le scandale. Etc. Puis on a tous un rôle à jouer là-dedans, comme chroniqueur, comme animateur, comme journaliste, etc.
Mais en même temps, c'est le nombre de clics maintenant qui et détermine voilà. ce qui va être pris.
Parce que tantôt, Audrey disait c'est la faute à qui? Ouais. Bien, c'est un peu la faute à tout le monde. Puis il y a des éléments que je pense sont très inconscients. Ouais. La semaine passée, j'étais sur un panel télévisé et on parlait de... Parce que Louis Lemieux, un député de la CAQ, disait qu'il y a trop d'opinions dans les médias, il y a trop d'opinions. Puis on a décidé de se regarder dans le miroir au panel puis se demander s'il y a trop d'opinions dans les médias. Hey, le nombre de commentaires que j'ai reçus. Là, tout le monde disait « Oui, il y a trop d'opinions, il y a trop de commentateurs. » Mais ça marche. En même temps, c'est ça que les gens nous demandent beaucoup. Les panels, ça fonctionne, ça crée des débats, ça crée des discussions, ça crée du trafic sur les plateformes. Donc, à la fin,
là-dedans.
Ben, il se passait de l'offre puis de la demande aussi, là, à un moment donné. T'sais.
OK, là, la discussion va trop bien. Est-ce que les journalistes sont responsables de quelque chose dans le fait que les lecteurs, les auditeurs ou encore les téléspectateurs ont décroché de la politique? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'activisme, de militantisme parmi les médias? Est-ce que de l'autre côté, les citoyens ont l'impression que les politiciens les écoutent? Moi, il n'y a rien de pire. Puis là, je sais que ça va peut-être accrocher, Antonine. Mais il n'y a rien de pire qu'un politicien qui dit là, ça, c'est du populisme. Ouais, mais t'as été élu par la population. De faire ce que la population te demande de faire, tu es le représentant de cette population-là, c'est pas nécessairement du négatif. T'sais. Si la population a besoin de telle ou telle chose, toi, t'es qui pour dire que c'est le contraire que la population devrait avoir? Les gens semblent désabuser un peu de la politique au Québec. On suit un peu la politique internationale, puis ça semble être généralisé, ça, ce cancer-là, de la fracture entre le politicien puis son... Puis là, j'aimais pas tout dans le même panier, là. Mais entre le politicien puis son électorat, il y a une fracture. C'est rendu que le politicien peut mentir sans gêne pendant les élections, puis après ça, revenir sur sa parole lorsqu'il a été élu. À un moment donné, tu te dis, OK, mais attends un peu, là, moi, ce gars-là, il est là, je l'ai mis au pouvoir, maintenant, il me ment. Puis après ça, quand je veux quelque chose, il me dit que mes idées, c'est juste du populisme, c'est basé sur absolument rien. Puis tu vois qu'il est à coquiner avec certains médias qui vont toujours voir les 4 ou 5 mêmes spécialistes qui sont toujours d'accord. Tu sais, je me souviens pas qui avait sorti ça. Je pense que c'était-tu Simon Clich dans Le Soleil qui parlait du journalisme militant, du journalisme activiste, puis qui disait que parfois... Le papier est écrit, puis après ça, il s'en va chercher les témoignages chez les spécialistes qui vont en lien avec son papier.
Mais c'est absolument vrai, là, ça, ce phénomène-là existe.
Mais ça, Antonine, je veux dire, comment on peut se dire, ah, mais on comprend pas pourquoi les gens ont décroché de la politique. Peut-être qu'on est tous responsables, tant les électeurs que les journalistes, que les commentateurs, que les politiciens.
Oui, il y a un bout de responsabilité qui se trouve chez les médias, puis moi, j'ai absolument pas peur de le dire. T'sais, on a des réflexes d'aller vers ce qui est le plus croustillant. La première explication, il y a beaucoup de choses dans ta question et dans ton éditorial qui est, ma foi, très... Puis ça m'accroche, puis ça m'accroche pas en même temps, parce que je suis d'accord avec quand même 75% de ce que tu dis.
Ah, j'ai pas été assez raide.
Ouais, la prochaine fois, donne un petit peu un tour de roue là, d'agressivité. Non, sans faire, c'est que moi, ce que je déplore, c'est quand on cherche toujours la mauvaise nouvelle. Là, pour moi, ça, on alimente le cynisme. C'est tellement difficile de placer une bonne nouvelle dans les médias, puis on cherche la bibitte, puis on cherche un peu là, ce qui va faire défaut, là, puis qui va être un peu contradictoire. Il se passe plein d'affaires, par exemple, à l'Assemblée nationale où qui font pas chicane. Là. Il y a plein d'affaires qui se règlent dans le corridor. Il y a plein d'affaires qui se règlent de façon non partisane. Mais ça, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ça intéresse pas beaucoup les médias de façon générale. Moi, je pense que tout le monde devrait faire un effort de dire au moins une bonne nouvelle par jour. Puis politique, là, pas juste la bonne nouvelle, une OBNL a fait un bon geste, c'est super. Mais en politique aussi, il se passe des belles affaires des fois. Moi, je pense que c'est un effort qu'on devrait faire parce que oui, c'est du cynisme à la fin de la journée.
Oui.
Et bon, les promesses brisées, pour moi aussi, c'est une cause de cynisme. Par contre, où est-ce que j'accroche dans ce que tu dis? C'est quand tu dis « c'est rendu qu'un politicien peut... »
Mentir.
Bien, qu'est-ce qui a changé? Ça a toujours été de même. En fait, je trouve ça plus difficile maintenant pour un politicien de briser une promesse avec le niveau d'information auquel on a accès. Tu sais, dans les années 30, là, t'allais sur la Côte-Nord faire un discours à un syndicat, puis après ça, t'allais faire un discours à Montréal au patronat. Tu pouvais dire une chose et son contraire, on l'aura
on
jamais su.
On n'entendait pas parler, ouais.
Tu sais, fait que je trouve quand même qu'on met la lumière sur beaucoup de choses maintenant. L'état des médias aussi au Québec fait en sorte qu'on a moins de journalisme d'enquête, on a beaucoup de coupures dans plein de médias. C'est difficile pour les journalistes de faire leur travail. Ils sont souvent... envahi de relationnistes, et j'en suis, tu sais, j'en fais partie, hein, je suis consultante dans la vie, puis je fais des relations de presse des fois, et c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, les journalistes dans les salles de presse, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc ça aussi, je trouve que ça vient un peu baisser la qualité de ce qu'on peut faire comme couverture de la politique.
Ah, parce que tu vas poser la question qui est punchée, puis je veux dire, tu creuses pas tant, là.
Bien, t'as pas le temps de faire une énorme enquête, des recherches, d'aller tourner. Fait que, tu sais, Yannick, quand tu disais, ils se retournent toujours vers les mêmes personnes, moi, j'y vois pas un complot, mais tu sais, j'y vois plus un réflexe efficient, c'est-à-dire
ouais.
J'ai toujours les quatre mains.
Mais quand le papier est déjà écrit, c'est de la mauvaise foi un peu. Là.
Ça, oui, puis il faut le déplorer en passant, ouais, parce que quand tu abordes un nouveau sujet, un enjeu, j'espère que les gens l'abordent avec ouverture, d'aller voir différentes perspectives, puis après ça, d'essayer de présenter l'information de la façon la plus factuelle possible. Mais même le journaliste le plus neutre, à un moment donné, le titre qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va mettre de l'avant en premier, en deuxième, quel spécialiste il va aller voir, quel expert il va aller voir, c'est tous des choix. Hein? Fait que l'objectivité pure, elle n'existe pas. Je me permets de revenir, parce que ça, c'est le phénomène comme global. Là, je m'en vais un peu plus sur les jeunes comme tels, parce que là, on parle des médias. Breaking news, là, les jeunes n'écoutent pas les bulletins de nouvelles. Je veux juste être bien, bien clair. Donc, c'est encore plus limité les moments qu'on a pour les rejoindre puis leur parler de politique. Puis la façon dont on consomme les médias maintenant, moi, ma mère, elle s'assoyait dans la TV à 22h, elle écoutait le téléjournal. Là, il y avait la nouvelle du jour de la politique, il y avait du judiciaire, il y avait du sport, il y avait du culturel, puis il y avait la météo. Donc, même si ça l'intéresse moins, le sport, elle savait ce qui se passait en sport, mettons. OK, juste par exemple. Maintenant, la façon dont on consomme les médias, C'est un algorithme qui te pousse tes choses. Là. Mettons que tu vas sur les plateformes de médias sociaux, on va te pousser ce qui t'intéresse déjà.
Ouais. Mettons que tu es pro Québec solidaire ou pro, mettons, on va au fédéral avec Pierre Poilievre, tu vas avoir que des nouvelles qui touchent Québec solidaire ou que des nouvelles qui touchent Pierre Poilievre.
Donc, le beau forum numérique qui nous donnait accès au monde, finalement, c'est une chambre d'écho à 99 % du temps.
Exact.
Puis, les podcasts, les blogs, on va écouter les infolettes auxquelles on va s'abonner, ben ça vient nourrir ça. Les gens vont vers ce qu'ils veulent. Donc, moi, si je m'intéresse à la politique, je vais en avoir en tabarouette là, du contenu politique, mais j'en ai plus de contenu culturel. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas c'est qui les chanteurs populaires. C'est... J'ai aucune idée parce qu'il faudrait que je fasse l'effort d'aller regarder ça, puis l'algorithme ne va pas me pousser ça. Mon Netflix, mes podcasts que j'écoute, etc., vont me pousser seulement ce que je veux. Donc, aller rejoindre les jeunes, les intéresser à la politique, quand l'envie, à la base, n'est pas là, c'est un défi énorme. Incroyable.
Oui. Tu parlais du journalisme d'enquête tantôt, Audrey. Je parlais avec un journaliste il y a de ça quelques années, quand l'ère du numérique est arrivée, là, avec, mettons, le journaldequebec.com, où le site web avait complètement changé, puis les nouvelles les plus populaires étaient mises de l'avant sur ta page quand ça ouvrait. Bien, eux autres, il y avait la même chose dans la salle des nouvelles.
Ah ouais.
Donc, le journaliste pouvait voir en temps réel sa nouvelle performée ou pas. Ce qui fait en sorte qu'un journaliste d'enquête... qui a fait une enquête pendant des semaines et des semaines puis qui met le papier en ligne versus le sac de chips qui était au départ joint avec le Journal de Québec. Le sac de chips était tout le temps top. Puis le sac de chips, tout le temps des niaiseries.
Ça nivelle un peu par le bas. Là, j'adore le sac de chips en passant, ouais. Mais ce phénomène-là du clic, de la course au clic, c'est sûr que ça nivelle un peu par le bas.
Fait que t'avais une grosse enquête qui avait pris des semaines, qui touchait, je sais pas moi, la corruption en politique, dans la construction, blablabla. Qui était relégué au dernier rang, puis t'avais le chat qui, je sais pas moi, qui était déguisé
Batman,
en la poupée de Chucky, ouais. Qui était au premier rang. Fait que t'ouvrais le journal de Québec.com.
Sans dit long, c'est nous autres, par exemple.
Ouais.
Ben, sans dit long, oui, mais après ça, ils l'ont comme ajusté.
Ouais.
Mais imagine-toi le journaliste qui se fait dire, ouais, mais toi, tes papiers sont pas lus.
Ouais, ça pogne pas.
Fait qu'il se dit, ouais, mais pourquoi je fais ma job? T'sais, fait ouais. Qu'à un moment donné, ils ont comme changé les choses. Ça fait en sorte qu'ils ont tassé complètement le sac de chips. C'est devenu juste un site web. C'est une bonne chose, là aussi. Je regarde ça, ça
de
me ferait des fois.
De séparer un peu les choses.
Mais là, les articles importants, il faut que ce soit
en première
page.
Mais ça fait aussi partie de l'évolution du journalisme en soi. C'est plate à dire, mais je veux dire, à mon sens, puis c'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'il n'en existe plus beaucoup des vrais et bons journalistes qui font leur travail de façon neutre jusqu'au bout, qui mènent des gros dossiers. Tu sais, on est un peu dans ce qu'on disait tantôt, c'est le facile, le clic, ce qui va intéresser les gens. On pose la question que tout le monde, tu sais, tout le monde veut savoir. C'est difficile de s'y retrouver. Est-ce que la transparence joue aussi dans le fait que je vais dire encore les jeunes, là, mais les gens en général ont moins confiance? Je ne sais pas comment ça marche au niveau de l'équipe de com, mais des fois, ce serait-tu difficile de juste dire comme, hey, je l'ai vraiment échappé à ce niveau-là. Voici comment on pense régler le problème.
La game politique fait en sorte qu'on va être beaucoup dans la ligne de parti, qu'on va essayer d'enlever le plus de contradictions possible. C'est difficile de s'excuser puis d'admettre une erreur. Je pense que la transparence, c'est vraiment un aspect intéressant que tu amènes parce que le manque de transparence fait baisser la confiance, mais paradoxalement, la transparence fait augmenter le cynisme aussi. Parce que dans les dernières années, les enquêtes sur la corruption, par exemple, tu sais, Gomery à Ottawa, ça fait plusieurs années maintenant, mais Charbonneau ici au Québec.
Commission Gomery avec Jean Chrétien qui arrive avec ses balles de golf.
C'était, ouais, ceux qui n'ont pas vu ça, là, parce que là, on parle des jeunes, ils n'ont pas vu ça. Nous, ça a été un moment marquant de nos vies.
Se fout éperdument de la commission puis qui arrive avec ses balles de golf, là, c'était
absurde.
C'était un cirque, là.
C'était un cirque. Ça, c'est censé mettre la lumière sur un certain nombre de choses et ça vient augmenter un peu le cynisme puis faire baisser la confiance des gens parce que, un, on a toujours l'impression de ne pas être allé au bout des choses puis d'avoir vraiment su la vérité. Mais en plus, on met la lumière sur une certaine vérité qui n'est pas toujours belle à voir. Donc, la transparence, c'est un couteau un peu
à double
tranchant.
Mais je pense que la transparence, on l'a vu de la part des politiciens. T'sais, moi, si j'ai une transparence à travers le travail d'un journaliste, j'étais encore plus cynique par rapport aux politiciens parce que je me dis, OK, il a fallu que quelqu'un creuse avec une pelle pour trouver ça. Là.
On la veut. Puis en même temps, quand un politicien est transparent, on le ramasse, puis on l'attaque. C'est malheureusement, tu sais, tantôt on parlait du journaliste puis des tendances puis de chercher le clic, mais le politicien, il cherche à éviter les problèmes. Puis à chaque fois qu'il y a un politicien, je trouve, qui dit un peu les vraies affaires. Puis là, je vais quand même me rendre un petit hommage à Pierre Fitzgibbon. Il n'y en a pas eu beaucoup d'hommages cet automne, Pierre Fitzgibbon, fait que je vais y en rendre un. Il y avait quand même cette authenticité-là de dire les choses telles qu'elles étaient et ça brassait, puis le monde n'aimait pas ça, puis les gens étaient dérangés, mais j'avais vraiment l'impression qu'il disait le fond de sa pensée, quand il s'adressait aux journalistes, qui était comme, moi, je vais pas faire semblant, ça me tombe pas.
Mais peut-être que les balles qu'il a reçues, il les méritait. Là, dire aux gens de partir le lave-vaisselle à minuit le soir, de faire le lavage à minuit le soir, que ça allait être ça, le futur.
Moi, je pars mon lave-vaisselle à 22h. J'ai mis une petite photo de Pierre Fitzgibbon.
T'es dans une maison. T'es dans une maison.
Ben oui.
Imagine-toi dans un immeuble à logement. Tu sais, la laveuse qui est mal calibrée à 2h du matin.
Le cycle de spin à 23h.
En même temps, tu sais à qui tu as affaire. Puis moi, c'est ce que j'admire et que je respecte. Surtout pour moi, la notion de respect est super importante là-dedans. Je préfère un politicien qui va se faire critiquer de tout bord, de tout côté, mais pour ce qui est réellement, puis qui va assumer ce qu'il dit puis ce qu'il pense. Pour moi, ça résonne bien plus, puis ça me donne bien plus envie d'être à l'écoute. Moi, je sais que la transparence, c'est vraiment un gros enjeu pour moi.
Puis, tu parles de ce qui résonne chez toi puis ce que tu attends des politiciens, puis ça, c'est l'autre élément. C'est un élément de générationnel aussi, mais les jeunes, à la base, s'intéressent moins à la chose publique, je pense, hypothèse là, que je teste avec vous, aussi parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'en vieillissant. Okay? Un jeune de 20 ans, premièrement, se croit, tu as la vie devant toi, tu te penses un peu invincible. Ta priorité, c'est de sortir, de voir tes amis, tes études aussi, probablement. Tu n'es pas un grand utilisateur du système de santé. Tu ne payes pas beaucoup d'impôts à 20 ans. Donc, en vieillissant, naturellement, tu commences à comprendre l'impact des décisions gouvernementales sur ta vie à toi. Fait qu'à la base, un jeune, pour l'intéresser à ces choses-là, c'est déjà un défi. Mais des aspects générationnels aussi. Tu sais, on a grandi. Moi, j'ai 40 ans. Fait que je me considère un peu, des fois, jeune quand je regarde, par exemple, les gens qui sont à politique, mais je me sens très vieille, par exemple, dans mon milieu de travail, parce que je travaille avec des gens plus jeunes que moi. Fait que je me fais un peu le casque bleu là, entre les générations. Je trouve que les plus jeunes sont très impatients, ce qui est l'apanage de la jeunesse en général, mais de plus en plus. T'sais, on est dans un monde d'instantanéité. Moi, si j'ai le goût de me commander une boîte de 12 beignes de Krispy Kreme à 23h, j'ai juste à prendre mon téléphone, puis dans 20 minutes, j'ai une boîte de Krispy Kreme. La politique, c'est pas ça. C'est long, ça demande beaucoup de négociations. J'ai l'impression qu'il y a des éléments des générations plus jeunes qui ont grandi dans des familles avec moins d'enfants, qui ont peut-être eu à faire moins de compromis un petit peu. On est dans une société plus individualiste aussi, un petit peu plus chacun chez soi. La pandémie a dû aussi probablement exacerber tout ça. Mais quand tu arrives en politique puis tu veux t'impliquer, puis on voit beaucoup de jeunes politiciens qui abandonnent rapidement. T'sais, on l'a vu l'année passée, Émilie Dessartérien, qui est devenue chef, puis après 4 mois, ça ne tentait plus parce que ça ne faisait pas son affaire. Je résume vraiment, elle avait sûrement des bonnes raisons aussi. Puis on a vu des jeunes maires, mairesses abandonner, des conseillers municipaux. Mais moi, j'y vois quand même un aspect de cette génération-là qui voudrait que les choses aillent plus rapidement, mais qu'à un moment donné, il faut faire des compromis. Puis ça, en vieillissant, j'ai l'impression qu'on le comprend plus aussi. Tu sais, t'as vécu plus de situations de conflit, puis à un moment donné, tu te mets à voir ça dans une perspective un peu plus large, puis tu le sais que ça fonctionne pas nécessairement de juste exiger puis de dire « je veux ça tout de suite ».
Mais c'est pas évident non plus. J'ai l'impression que ça... Tu sais, moi, je regarde, mettons, le maire Marchand, puis sans parler de son travail puis ses décisions, puis juste le maire Marchand en soi. Là. Moi, ce que j'ai observé vite de même, là, sans analyse, là, c'est que c'est un gars qui était très optimiste quand il est rentré à la mairie.
Oui, ouais, il mentait beaucoup pour rentrer à la mairie.
C'est un gars... Ben, je veux pas aller là. Je veux vraiment juste prendre le principe de... C'est un gars qui avait l'air d'avoir plein d'idées puis de pensées, là, tu comprends, que tout était possible. Puis j'ai comme l'impression, puis je sais pas comment ça fonctionne à l'interne, mais que c'est fessé à beaucoup de portes qui font qu'il n'y a rien qui marche. Puis aujourd'hui, on le regarde quelques années plus tard, il a l'air aigri déjà de ce qu'il fait. Puis moi, comme plus jeune, je regarde ça, puis je me dis, si même matin, j'ai une opportunité de me lancer en politique...
Ça te donne pas le goût, ben.
Tabarnouche que j'ai pas le goût de me ramasser
comme
ça.
Il aurait peut-être pas eu le vent en face qu'il y a là actuellement.
Avec
s'il avait utilisé la stratégie de départ, c'est-à-dire...
Prends n'importe quel politicien, ils finissent tout aigris.
Peut-être. Mais est-ce...
Oui, puis tu as raison aussi. Je trouve que vous avez tous les deux raison, parce que c'est vrai qu'il y a quelques-uns de ces maires et mairesses-là qui sont arrivés avec une idée dans leur tête, puis ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Je pense à la mairesse de Gatineau, la mairesse de Sherbrooke, là, une qui a annoncé qu'elle ne se représentait pas, puis une qui a quitté. Il y a comme quand même un fil conducteur, je trouve, avec cette nouvelle génération de maires-mairesses-là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand on entend parler les politiciens, ils mettent des priorités pour la société en général, puis quand on passe un sondage dans la société en général, c'est souvent paru dans la presse, non, pas dans la presse, excuse-moi, dans le Journal de Québec, avec des sondages légers sur la priorité, tu disais un peu, là. D'un côté, les politiciens disent ce qui est important, c'est décarboniser tout, après ça, l'environnement, patati, patata, puis de l'autre côté, pour l'électeur moyen, c'est l'économie. Lui, ce qu'il veut, l'électeur moyen, c'est que l'économie avance, mais le politicien est comme pro-environnement. Moi, à la station, je ne sais pas si c'est moi le plus environnementaliste, mais en tout cas, dans ma rue, je te le confirme, pas mal moins qui fait tout ce qu'on me demande de faire, à part que j'ai une tondeuse à essence. Je m'en excuse. J'aurais dû m'acheter une chèvre.
À la station, tu tues des arbres en moyenne, à peu près comme 7-8 par jour, probablement.
J'ai mon iPad. Oui, j'imprime mes courriels.
Mais il est moins pire, je dois te le dire, mais il y a un moment, quand il est arrivé ici, là, il t'imprimait des feuilles à pu finir pour se dire on va manquer de papier.
Fait que là, je me suis acheté un iPad. Mais ce que je veux dire, c'est d'un côté, les politiciens nous disent voici nos priorités, puis après ça, l'électeur moyen, dont je fais partie, dit, t'as pas, moi, là, faut que l'environnement soit là dans le top 10, mais l'économie, l'emploi, la santé, ça, l'éducation, faut que ça soit mis de l'avant constamment. Mais le politicien, tu sais, je me souviens d'un Philippe Couillard qui était venu en entrevue, puis il nous avait dit, ça, c'était dans le début du tramway, il nous avait dit, moi, à Québec, tout le monde me parle de tramway. Puis j'avais dit, Monsieur Couillard, le citoyen ordinaire peut pas vous jaser. C'est pas lui qui vous parle. C'est les gens qui vous parlent. C'est vos lobbyistes, c'est vos assistants, c'est vos conseillers, mais la population en général n'a jamais l'occasion de vous jaser, tu sais.
Mais comment on peut briser ce mur-là?
Ça prend des êtres humains normaux.
Ben bon, c'est ça. Là, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. La première des choses, c'est que le vrai monde n'est pas toujours représenté chez les élus. Là, je le dis vraiment entre guillemets « vrai monde », parce que tout le monde est du vrai monde en bout de ligne, mais les gens dont tu parles, Yannick, puis qui ne parlaient pas à Philippe Couillard, l'Assemblée nationale, elle n'est pas représentative de la population en général. T'sais, tantôt, on parlait des jeunes, par exemple. Est-ce qu'un jeune de 30 ans va avoir tendance à vouloir devenir député? La réponse, c'est non. T'sais, même moi, mettons, je suis un bon exemple. Je ne me considère pas si jeune que ça. J'ai 40 ans. Mais en politique, 40 ans, c'est comme si j'avais 25 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, que je continue de baigner dans le monde politique. Ça me fait sentir jeune. Je me fais des fois proposer de me présenter. Pourquoi tu ne te présentes pas? Premièrement, moi, je suis au cœur de ma carrière à moi, là, t'sais, que je mène puis que ça va bien. Et j'ai un enfant de 7 ans. C'est pas le bon moment. Fait que ça fait en sorte que soit que les gens qui deviennent députés jeunes, c'est parce que c'était le but de leur vie d'être élus, ça fait des politiciens de métier. Donc là, je le mets encore une fois entre guillemets, mais c'est pas du vrai monde entre gros guillemets parce que ils ont pas nécessairement eu d'autres carrières, ils ont pas nécessairement connu autre chose. Puis, le cas le plus classique, c'est j'étais en fin de carrière, j'ai 55, 60 65 ans, même des fois.
T'es-tu un peu déconnecté aussi, peut-être, rendu là? C'est
ben,
un gros préjugé.
T'es moins connecté sur les priorités des jeunes, c'est évident. C'est évident. Donc, il n'y en a pas tant des jeunes à l'Assemblée nationale parce qu'on a d'autres priorités quand on a entre 25 puis 40 ans. Nos enfants, notre famille, notre carrière, etc. Puis aussi, des fois, peut-être qu'on est encore un peu plus sensible à la critique. En vieillissant, t'en as reçu plus, tu te renforces. En tout cas, moi, je trouve qu'en vieillissant, je me renforce énormément. Là, quand j'ai commencé, quand j'étais porte-parole, dans le temps que j'étais en politique, ça me faisait de la pépine de recevoir des commentaires, là, puis de me faire dire que j'étais pas belle, puis que... Tu sais, ça me dérangeait. Maintenant, je m'en fous comme de l'an 40. Là, je me suis fait une carapace avec le temps. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que nos politiciens ne nous représentent pas. Puis sur les priorités, bien... Là, je suis un peu en désaccord avec Yannick parce que tu me dis que la priorité des gouvernements, c'est l'environnement, alors que je trouve pas que c'est nécessairement ça qu'on met de l'avant tant que ça pendant les élections.
C'est ce qui ressort dans les médias.
Je pense que dans les médias, effectivement, c'est plus présent. Mais par exemple, prendre le gouvernement de la CAQ...
Je parlais avec un gars de 30 ans, il y a 2-3 semaines. Je ne sais pas si Audrey était avec moi. Il y a 30 ans, là, c'est un homme assumé, il ne se pose pas mille et une questions, mais il dit... Je ne sais pas si je vais avoir des enfants parce que l'environnement, ça va pas bien. Je me suis dit, mais quel genre de... Tu étais là avec moi, hein? Je me suis dit dans ma tête, mais quel genre de société qu'on est en train de bâtir?
Ben, nos enfants, très anxieuse, là,
nos enfants se posent des questions à savoir si leurs propres enfants vont survivre en raison de la pollution. Je veux dire, il faut faire attention à notre environnement, mais on fait des efforts. Au Québec, on est les meilleurs pour ce qui est de la production des gaz à effet de serre. On est les meilleurs. C'est nous qui en produisons le moins par rapport au Canada. Et ça vient de François Legault.
Pas par tête, par contre. Per capita, on n'est quand même pas si bon que ça. Par contre, on a un grand territoire, puis on a des défis. On a un hiver qui dure 6 mois par année. Fait que, à un moment donné, moi, je ne suis pas pour l'auto-flagellation non plus. Il faut souligner aussi les bons coups. Mais si tu prends le gouvernement de la CAQ, la CAQ, les priorités qu'ils ont mis de l'avant depuis 6 ans, c'est économie, santé, éducation, puis l'identité. Okay? L'environnement arrive un peu en cinquième. Puis l'environnement, c'est que ça va être dur de mettre ça de l'avant parce qu'on demande aux gens de faire des sacrifices puis de changer leurs habitudes. Puis ça, généralement, c'est pas très populaire auprès de l'électorat, comme par exemple pour ta tondeuse, là.
Oui, j'aurais dû m'acheter une chèvre, je m'excuse.
Ben oui, c'est cute en plus, des chèvres. Ils en aimeraient ça.
Sauf que la chèvre, elle peut péter. Puis là, des pets, là,
ça fait des gaz à effet de serre.
Ça fait des gaz à effet de serre.
On s'en sort pas, hein?
On s'en sortira pas. Mais c'est pour ça que l'environnement est mis de l'avant beaucoup dans les médias, parce que c'est un enjeu important, puis une crise climatique, comme vous savez. Mais du côté des politiciens, moi, je trouve pas. Je trouve que Québec solidaire le met beaucoup de l'avant, l'NPD, puis Justin Trudeau jusqu'à un certain point sur la scène fédérale aussi.
Fitzgibbon était pas mal là-dessus aussi, là.
Mais Fitzgibbon, là, je vais le défendre encore, puis je ne reviens pas que je me mets à être la défendresse de Pierre Fitzgibbon. Là. Ça donne de même, puisqu'on a souvent des.
Mais t'as le droit de te tromper, Anthony.
Bon, merci. Oh, t'as le droit d'avoir tort.
Mais je m'excuse.
Ça ne me dérange pas.
Je ne sors pas souvent.
Je vais le défendre, OK? La question de Pierre Fitzgibbon, je ne pense pas que c'était d'être idéologique sur la crise climatique. C'est qu'au Québec, on a une énergie qui est propre, mais on la prend, puis elle n'est pas si chère que ça si vous comparez avec le reste de la planète. On ne paye pas nos factures d'électricité
Antonine,
si chère que ça.
Attends, on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord.
On est d'accord.
Si mais tu manges dans ton propre restaurant, vas-tu payer le même prix que tout le monde?
Je vais au bout de mon idée. Notre électricité, on ne la paye pas si chère que ça, mais on paye des impôts, tu as 100% raison, puis qu'à quelque part, on finit toujours par payer. Mais je pense qu'on la prend pour acquise, puis je pense qu'on la gaspille beaucoup. Puis j'en vois des exemples de gaspillage, des buildings qui restent allumés, des buildings qui chauffent le dehors. On en a plein, des exemples comme ceux-là. Puis, dans le fond, notre production d'énergie, là, je tombe dans des gros sujets, mais c'est pas compliqué. Okay. La production d'énergie, elle doit être aussi... Elle doit avoir la capacité de fournir dans le pic d'énergie. Donc, si on baissait le pic d'énergie qui a lieu entre 5h et 20h le soir, ça nous permet de faire plus d'affaires avec notre énergie, notamment de décarboner des industries qui polluent à l'heure actuelle, mais qu'en ce moment, on doit fournir beaucoup, 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 beaucoup entre 17h et 20h parce qu'on fait notre souper, on part la sécheuse.
Oui, c'est l'hiver.
Puis c'est l'hiver, puis on gèle, puis c'est bien correct.
On veut plus de véhicules électriques.
Mais si on était capable de consommer juste un peu moins dans le pic d'énergie, ça ouvre une kyrielle de possibilités qu'on peut faire avec notre énergie propre.
Ce qui fâche les gens aussi, c'est qu'il y a un petit manque de cohérence. Tu viens de le dire, les fameux buildings qui restent allumés toute la nuit, qui commencent par tout fermer de ton bord, le gouvernement, puis nous, après ça, petit peuple, on va s'organiser.
Je suis d'accord avec vous.
C'est peut-être moi qui n'ai pas un cercle d'amis très, très, très élaboré, là, mais je ne connais pas personne l'hiver qui met le chauffage au fond puis qui ouvre les fenêtres. Là.
Non, mais ça nos maisons sont mal isolées. Puis c'est pas de la faute du monde. Puis, tu sais.
On a les maisons les plus isolées en Amérique du Nord, au Québec.
Nos bâtiments, notamment. Là,
oui, parce qu'il y a des normes, on est les meilleurs. Oui,
mais on peut être les meilleurs. Mais il y a un gaspillage. Dans la question d'être, disons, plus efficient avec notre énergie, puis de moins gaspiller, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
Parce que si on veut embarquer sur l'énergie propre maintenant, le moyen le plus propre de produire l'énergie, c'est le nucléaire. C'est le nouveau nucléaire. Il y a 19 centrales nucléaires au Canada. Il n'y en a plus une au Québec. On a fermé Gentilly.
Ouais,
c'est en train de refroidir. Mais partout ailleurs dans le monde, ça fonctionne, le nucléaire. Le nouveau nucléaire, pas l'ancien.
Puis pas loin, vous n'avez pas besoin d'aller loin en Ontario. Exact. C'est le cas. Puis c'est une énergie qui est propre. On a toujours le même problème de comment on gère nos déchets, là. C'est toujours un enjeu.
J'ai l'impression, pour finir ça, si on veut, parce que ça, c'est un peu la question un peu de notre discussion aujourd'hui, là, tout ce qui est intérêt des jeunes, de la population envers la politique, les « woke ». Les fameux « woke ».
Les « woke ».
Non, mais...
Ils sont partout,
c'est une forme de politique en même temps dans la nouvelle génération, parce que ça crée aussi ce mouvement-là, les « woke », des anti-woke. Fait que, veux pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une forme de politique à travers tout ça, mais... Pas la même qu'au gouvernement. T'sais, y a-t-il un petit manque de communication? C'est-tu ce qu'on essaie de créer avec la prochaine génération?
C'est intéressant, la question des woke. Premièrement, j'aimerais déclarer une chose. On est toujours le woke de quelqu'un.
C'est vrai, ça.
Je me suis fait traiter de woke plusieurs fois cette année.
Moi, ça m'est jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais, toi, tu es comme un petit peu plus au bout du spectre
comme
woke.
L'anti-woke.
Tout le monde doit te sembler tellement woke, Yannick, au quotidien. Ça doit être lourd des fois. En fait, le wokisme, c'est une forme de militantisme. Puis le militantisme, ça a toujours existé. C'est juste que là, la forme que ça prend en ce moment, c'est beaucoup celle-là, puis c'est beaucoup importé des États-Unis, en fait. Hein. C'est souvent, des fois, c'est pour ça que moi, des fois, ça me fâche, puis je trouve que ça n'a pas rapport dans notre contexte, parce qu'on essaye d'imposer un spectre de pensée qui n'a pas nécessairement rapport au Québec, notamment sur les questions de racisme, sur les questions autochtones aussi. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la réconciliation. Puis souvent, là, on nous parle à travers un spectre qui n'est pas celui qui est historique au Québec puis par rapport aux Premières Nations. Fait que le wokisme, c'est une forme de militantisme. Puis comme je vous le disais d'entrée de jeu dans la discussion, moi, je pense que toute implication dans notre communauté est positive. moi, je ne me considère pas comme étant woke. C'est pas une approche que, à laquelle j'adhère beaucoup. Mais je trouve ça préférable des gens qui s'impliquent, même si c'est à travers cette lunette-là, que des gens qui s'impliquent pas du tout. Je pense que ça va être une des modes qui va passer, puis que le militantisme, il y a toujours un balancier puis un pendule qui vient d'un côté ou de l'autre.
Moi, je pense qu'on a besoin des woke comme on a besoin des gens qui sont un peu plus extrémistes, puis on s'entend par extrémisme, là, tant que ça fait pas mal à personne. Mais on a tous besoin de cette belle gang-là. L'important, c'est que tout le monde puisse s'écouter puis d'accepter qu'on peut changer d'idée des fois parce qu'on s'est peut-être trompé. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a jamais pensé.
Puis d'accepter que la personne en face de toi va peut-être pas finir la discussion en disant « t'as raison, j'ai changé d'idée ». C'est bien correct.
La société, c'est jamais bâti avec des gens conformistes. Là.
C'est des belles paroles, ça, Carlis.
Je m'excuse.
C'était beau, hein? C'était
Audrey qui était supposée dire ça.
Je te laisse le mot de la fin, là. Je peux rien ajouter là-dessus.
Antonine Yacaridé, on peut te suivre, là? T'es-tu à télé ce soir?
Ce soir, non, mais je serai jeudi à nouveau au débatteur. Où est-ce qu'on débat dans le respect et qu'on essaie de faire avancer les idées, qu'elles soient woke ou non?
Merci d'être passé.
Bye.
Bye-bye. Reg against le matin. 11h14, c'est une belle discussion avec Antonine Yacaridé. Je l'aime beaucoup.
Hey, j'ai beaucoup d'amour pour cette femme-là aussi. Je vais t'avouer que c'est un petit plaisir personnel que je peux checker sur ma liste parce que
Antonine,
je l'entends.
Antonine, c'est un petit plaisir personnel.
Ben, hors contexte de même, mais je l'entends depuis longtemps sur nos ondes. Puis je me dis toujours, hey, j'ai hâte au jour où je vais pouvoir jaser avec Antonine. Puis j'ai trouvé ça super le fun. Les gens qui ont beaucoup réagi par texto aussi, j'ai l'impression que le monde se sent interpellé par le fait qu'on manque peut-être d'intérêt par rapport à la politique au Québec.
Elle est exceptionnelle et on la recevra peut-être dans les prochaines semaines si vous êtes chanceux.
Oui. Ouais. Si vous le demandez, hein, on va exaucer le vœu.
Demandez plus d'Antonine, vous l'aurez. Hey, on parle d'un sujet qui nous tient à cœur. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, en fait, c'est une bonne connaissance qui a malheureusement le cancer du sein. Elle a fait tous ses traitements. Geneviève Rivrel, tu connais Geneviève Rivrel? Elle a fait tous ses traitements et tout ça, puis elle lutte contre ça. Le cancer du sein qui fait rage depuis des décennies. Je pense qu'on s'est beaucoup amélioré pour ce qui est de la détection. Là. Avant, dans les années 80, Audrey, j'entendais pas dans les médias dire constamment « vous devez palper vos seins pour voir si vous avez des masses et tout ça ». Donc, il y a beaucoup de recherches qui s'est fait, puis ça, c'est en raison du fait que les gens se sont pris en main. Il y a des organismes qui ont parti, des organismes sans but lucratif
les
qui ont dit
«
nous, on veut effectivement aider à la recherche du cancer du sein ». Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, à tous les jours pratiquement, il y a des femmes qui surveillent à savoir s'il n'y aurait pas des masses à la hauteur de la poitrine.
Mmh. Et tu vois, c'est depuis là, le pic atteint, mettons, en 1986, le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes a diminué de près de moitié, ce qui est vraiment une belle nouvelle. On parle d'une femme sur 8 qui va recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. On parle de 260 hommes qui reçoivent un diagnostic chaque année. Fait que c'est très, très répandu. Puis ça vaut la peine d'en parler pour la simple et bonne raison qu'on connaît tous quelqu'un de près ou de loin. Tout le monde connaissait une personne sur deux, le cancer en général. Tout le monde connaît quelqu'un qui l'a. J'ai perdu mon grand-papa du cancer un peu plus tôt cette année. Tu sais, c'est quelque chose qui fait mal encore. Puis on a besoin de sous, justement, pour faire avancer la recherche pour que ça évolue. Et il y a un événement dimanche 6 octobre, dimanche qui s'en vient. La course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. Puis pour en jaser ce matin, bien, on a avec nous Judith Rodré, qui est responsable de l'espoir. Je trouve ça beau. Responsable de l'espoir sur le comité organisateur de la course à la vie contre le cancer. Judith, bon matin.
Bonjour.
T'es toi-même survivante du cancer.
Oui, effectivement.
Tout comme Rocky, tu en as sacré une.
J'ai fait ça comme une championne.
Est-ce que tu étais pour l'organisme avant?
Dans le fond, je suis pour la course à la vie depuis 2020.
OK.
J'ai eu un cancer du sein en 2018. Donc là, je suis en rémission.
Puis après ça, tu t'es dit, je vais m'impliquer.
Oui, en 2020, j'ai une amie à moi qui fait partie du comité également. Puis elle m'a dit, mais semble, Judith, je te verrai dans le comité. Je te verrai pour représenter les participants de l'espoir.
Ah, c'est cool. Puis est-ce que tu étais très alerte, toi, tu sais, quand les médias parlaient justement là, du cancer du sein, tout ça, est-ce que tu étais une femme qui vérifiait constamment?
Non.
Non?
Non.
C'est curieux, hein, parce que j'aurais pensé que les filles... c'est peut-être dans mes rêves aussi, mais j'aurais pensé que les filles faisaient ça régulièrement.
Bien, c'est que... dans le fond, ça a été diagnostiqué à 37 ans. Puis à 37 ans, je pensais pas que je pouvais avoir...
Tu te considérais trop
jeune.
Non,
c'est ça. Dans ma tête, c'était plus haut, tu sais, 45, 50.
Ouais.
Mais de plus en plus, c'est des jeunes. De plus en plus, c'est en bas de 40 ans, en bas de 30 ans, j'en ai vu à 28 ans et tout.
Audrey, t'en parlais-tu au secondaire?
Ben moi, je te dirais que c'est plus la famille qui m'en a parlé parce qu'on a des antécédents. Ouais. Ma grand-mère a eu le cancer du sein. Puis ils disent tout le temps que ça saute comme une génération. C'est fou cette statistique-là, okay. Mais fait que moi, il va falloir que je me surveille. Fait qu'on nous a parlé, je te dirais, d'aller faire des tests, mais c'était quand même encore assez flou de comment. On nous a pas montré, non. On a plus parlé de la base de la sexualité quand j'étais jeune que non, mais c'est vrai pareil. Puis c'est triste parce que c'est faut que tu connaisses ton corps, faut que tu sois capable de le faire le test à la maison, de savoir quand il y a quelque chose peut-être qui va pas, qui est anormal, tu sais, pour aller à l'hôpital. Fait que je pense que ça manque, effectivement. C'est plus au niveau de la famille que j'ai eu cette éducation-là.
Judith, tu l'as découvert comment, toi?
en me couchant le soir. Ben, je me suis couchée sur le côté, je me suis replacée le sein, puis j'ai senti la bosse. Puis là, je me suis dit, bon, ça y est, je m'en viens pour me faire une nuit blanche, là, ça n'a pas de bon sens. Puis le lendemain, ben, j'ai appelé sans rendez-vous, puis j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Et là, ça a tout déroulé en 3 semaines. J'ai eu tout, là. Mammo, écho, biopsie, puis après ça, diagnostic.
Puis le diagnostic, là, toi, tu ils t'ont dit, bon, c'est bel et bien un cancer du sein.
Oui.
Au niveau humain, t'as pris ça comment?
J'ai eu un blackout.
Ouais.
Tu sais, l'annonce là, qu'on voit, là, mais pour vrai, là, on se dit tout, ah, c'est stagé, cette annonce-là. Non, non, j'ai vraiment eu l'impression que ma vie s'effondrait, que... Le plancher, pouf, tombé.
Ouais, tu t'en vas à la guerre. Les soldats sont déjà là. Les soldats qui sont contre toi sont déjà là. Puis toi, tu n'as pas encore préparé ton
Surtout
armée.
Surtout que je m'en allais là en me disant, j'en ai pas dans ma famille.
Oui.
Fait que j'en ai pas. Fait que ça doit être juste un kiss ou quoi.
Oui, c'est ça. C'est pas important. Ça va être correct.
C'est ça. Mais non.
Fait que c'est là que ce genre d'événement-là, comme la course à la vie de la Société canadienne du cancer, ça prend un sens parce que ça vient aider. Peux-tu nous parler de cet événement-là pour les gens peut-être qui ne connaissent pas?
Oui, bien, dans le fond, c'est le 6 octobre. Ça va être à la base de plein air de Sainte-Foy. C'est un événement, dans le fond, qui rassemble les gens, la famille, la communauté de cancer du sein, peu importe, partout au pays. Puis cette année, on a décidé que c'était sous le thème de la famille.
Ah,
fait qu'on voulait comme vraiment réunir les gens, parce qu'il n'y a pas juste ceux qui ont eu un cancer du sein, il y a aussi les proches aidants qui sont présents et sont importants pour ces personnes-là.
Les familles aussi qui doivent vous accompagner, les enfants qui veulent, ils veulent avoir leur mère jusqu'à la fin de leur jour. Là,
puis
ça
cette année,
pas
on veut qu'ils viennent, on veut qu'ils soient présents. Ils annoncent super beau, je le dis tout de suite. Je l'ai annoncé.
Non, c'est le fun!
Moi, beau soleil.
Je suis pas un grand coureur, mais admettons que je veux y aller. Là, est-ce que je peux marcher? Si je veux courir, je peux-tu jogger? Y a-t-il une grosse compétition? C'est combien de kilomètres qu'on en fait?
C'est très convivial. C'est 1 km ou 5 km, soit à la marche ou à la course.
Oh mon Dieu, c'est vraiment pour tout le monde.
Oui, c'est vraiment pour tout
c'est
le monde.
C'est pas
épeurant. Puis à la base de plein air de Sainte-Foy, ben, c'est beau. Là. On marche dans le bois, il y a des petits oiseaux, puis tout. Puis c'est l'automne en plus. Fait que
à quoi servent? Parce que j'ai l'impression que c'est jamais tangible. Là. On sait qu'on donne l'argent à une bonne cause, mais tu sais pas trop ce qu'ils font avec. À quoi servent les sous qui sont ramassés?
Je te dirais que les sous vont beaucoup pour aider les personnes. Il y a plusieurs... je cherche mes mots. Ce sera pas long. Dans le fond, quand on a besoin de traitement et tout, des fois, on a besoin d'aller ailleurs. Moi, j'ai eu ce privilège-là d'aller faire mes traitements de radiothérapie à Rimouski parce qu'en 2018, à Québec, il y avait trop d'attentes.
OK.
Fait que là, on ne voulait pas. Donc, moi, j'ai fait, ça ne me dérange pas d'aller à Rimouski. Fait que dans ce temps-là, ils proposent des maisons d'hébergement gratuites pour t'héberger. Fait que ça fait partie...
Fait qu'au-delà des traitements, c'est aussi pour tout ce qui est, je veux dire, confort de vie pendant ce processus-là.
Puis il y a aussi les prothèses et accessoires capillaires, que c'est offert gratuitement. Ça, il y a des gens... Moi, ça me dérangeait pas d'avoir un coco, là. Mais il y en a qui veulent avoir une perruque ou quelque chose, parce que c'est normal, là.
Il y a un complexe qui vient avec ça.
Oui, c'est ça. Puis... Fait qu'il y a ça aussi. Il y a une ligne d'assistance. Là, je lis ma feuille parce que je les connais pas toutes par cœur, là. Il y a une communauté de soutien virtuel, parloncancer.ca. C'est sûr que ça va à la recherche également. Mm-hmm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous qui vont pour la recherche pour le cancer du sein.
Ça existe depuis 1992?
Oui.
Wow! Puis vous avez ramassé des millions et des millions. Je pense que c'est autour de d'un demi-milliard.
Oui, c'est ça. 507 millions au profit de la cause du cancer du sein.
Fait que si vous voulez participer à la course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, j'imagine qu'il n'est pas trop tard, on s'entend. C'est ce dimanche, vous visitez le site tout simplement lacoursealavieCIBC.com et c'est une façon de redonner aussi. On parle de ça depuis ce matin, hein, la façon de redonner à la société puis de s'impliquer. C'en est une super belle, très accessible.
As-tu des statistiques? Est-ce qu'il y a eu une diminution, Audrey, pour ce qui est de la mortalité, pour ce qui est du cancer du sein?
Mais comme je te disais tantôt, c'est carrément de moitié.
C'est de moitié.
Là. Oh, oui, puis tu sais.
Hey, c'est hot. Là.
Vraiment, tu sais, on parlait dans le temps, là, tu sais, le pic a été atteint en 86, puis depuis 86, ça ne fait que descendre. C'est sûr que les sous, la recherche, ça aide énormément. On souhaite qu'un jour, ce soit plus aussi grave qu'on le connaît, le cancer, mais c'est grâce à ces dons-là. Fait que, tu sais, puis pour ce qui est de la course en tant que tel, on parle de 46 000 personnes à travers le Canada qui ont participé l'année dernière, par exemple. Fait que c'est sûr qu'on souhaite toujours qu'il y ait plus de participants. Tantôt, je vous parlais d'une femme sur 8 qui va recevoir un diagnostic au cours de sa vie. C'est beaucoup quand même. Là.
J'ai des stats intéressants. Je pense pas que tu les aies mentionnés, ceux-là, pour ce qui est de la course à la vie, c'est IBC. Avec l'argent, c'est la recherche sur le cancer du sein, les services de soutien, les programmes de défense de l'intérêt public, offrir des informations fiables sur le cancer du sein. Mais c'est 3 300 accessoires mammaires et prothèses accessoires capillaire, 5200 séjours dans des maisons d'hébergement parce que, bien entendu, il y a des filles qui ont besoin de ces maisons-là pendant leur traitement, 6800 personnes qui ont bénéficié d'un aide au transport et 14,5 millions recueillis l'année dernière dans le cadre de la course à la vie. Vous travaillez extrêmement fort, madame.
Oui, depuis le mois de mai, on se réunit à chaque... Bien, pas chaque semaine parce que là, c'est depuis le mois de septembre qu'on est à chaque semaine, mais depuis le mois de mai, à chaque mois. Puis depuis septembre, à chaque semaine, pour pouvoir organiser un bel événement.
Je vous invite à y être dimanche parce que l'an passé, c'est 782 participants qui étaient là. Pour la région de Québec, là, 184 293 $ qui ont été amassés. Cette année, on vise 900 participants, 200 000 $ C'est très atteignable. Je veux dire, allez aux couleurs en fin de semaine. Il fait beau, les arbres de couleurs. Vous allez faire un petit 5 avec la famille, marcher tranquille. C'est pas forcément, probablement, que vous le feriez dans un parc anyway. Fait qu'allez-y donc dans le cadre de la course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer.
Judith Rodrigue, un gros merci d'être passée.
Mais merci à vous.
Puis ça me fait plaisir d'entendre qu'aujourd'hui, tu es guérie de tout
ça. Vraiment.
Puis c'est ton témoignage de fille qui, justement, portait pas attention à ça, tu sais, c'est sain, parce que tu te considérais comme trop jeune, peut avoir aidé les jeunes femmes qui nous écoutent à commencer à vérifier constamment chaque jour. Bien, si ça peut sauver une vie, Caroline, ça aura donné ça. Donc, félicitations pour ton témoignage, Judith. Un gros merci. Audrey, je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute dans le retour tantôt.
Absolument. Je vous écoute ce midi, puis on se voit demain.
Après la pause, Pascal CV s'amène.